Bonjour à toutes et à tous.
Très
heureux de vous retrouver pour cette 47e séance de notre séminaire sur la politique juive en exil. Merci infiniment au Rav de nous recevoir dans son Beit Midrash. Merci pour votre engagement auprès de nous. Merci Madame Rothschild pour votre aide. Voilà, je suis désolé d'avoir commencé un petit peu en retard. Aujourd'hui, on se retrouve quand même à un moment, c'était prévu depuis un peu plus d'un an, qu'on allait faire le dimanche 1er mars avec Yonah Abitbol, et il s'avère que ce dimanche 1er mars est un dimanche 1er mars pas comme les autres, veille de Pourim et donc cette guerre qui a commencé. Je suis particulièrement heureux de re-recevoir Yonah Abitbol qui a fait partie de nos historiques. On a commencé le séminaire avec lui. Il était présent tous les mardis soirs et tous les dimanches pendant un an et demi jusqu'au Covid. Donc vraiment le tout début. Il nous avait déjà fait une séance d'ailleurs sur la Megillat Esther et maintenant il va nous faire une autre séance sur la Megillat Esther vue d'un autre angle. Voilà, tu es très important pour nous, Yonah. Donc voilà, tu venais tous les dimanches et tous les mardis, puis après que les dimanches, puis après un peu moins, mais sache que tu seras toujours le bienvenu et qu'on adore quand tu es parmi nous. Donc, voilà, je vais laisser Joe te présenter très rapidement.
Hein? Je pense que ce qu'il va dire est beaucoup plus important que ce qu'on peut dire de lui. Yonah Abitbol vient de ce mouvement, si je puis dire, qui a commencé dans les années 80. 70-80, avec l'arrivée du Rav Abitbol à Strasbourg, le Rav Abitbol qu'on considère comme étant un des tout premiers, après l'école d'Orsay, à avoir installé avec beaucoup de sérieux et de profondeur l'étude des textes en français, dire le texte en français. C'était une révolution qui nous paraît aujourd'hui acquise, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, d'étudiants, de livres qui sont parus. Et Yonah vient de cette école, si je puis dire. C'est le fils de son père. Il se trouve qu'effectivement, le Rav Abitbol à Strasbourg, que Dieu lui donne une bonne santé, a des enfants qui se sont tous quasiment engagés dans l'enseignement et l'étude. Yonah en est un. J'ai beaucoup apprécié de le retrouver ici quand nous avons commencé ce séminaire. Donc, j'étais heureux de savoir il y a quelques semaines qu'il avait accepté d'intervenir aujourd'hui. Effectivement, si je puis dire, aucun rapport. Mais je réalise souvent combien la véritable étude juive percute notre réalité. Et le sujet qui va être traité aujourd'hui est vraiment nous amène à réfléchir et comme j'ai dit il y a un petit moment à Alexandre, il nous a proposé une conférence d'actualité. Je lui ai dit non, ici c'est le temps long. Le séminaire, c'est pas une rencontre du CRIF. C'est très important qu'on entende des gens qui parlent d'actualité à condition qu'ils soient engagés dans l'étude comme le fait le Rav Gronstein et comme le font tous les gens qui viennent de ce Beit Midrash. C'est la particularité de ce séminaire. Voilà. Yonah, à toi.
Ouais, j'ai essayé de relever ça, justement, de faire de l'étude sur la Megillah. Alors, la Megillat Esther. La Megillat Esther, elle a ceci de particulier, c'est que tout en étant un des 24 livres des Écritures de la Sainteté, un des 24 livres des Kitvei HaKodesh, donc il y a 5 livres de Torah, 8 livres de Nevi'im et 11 livres de Ketuvim, la Megillat Esther, elle fait partie de la collection qu'on appelle Kitvei HaKodesh, les Écritures de la Sainteté. Kitvei HaKodesh, l'élément essentiel des Kitvei HaKodesh, c'est d'être comme leur nom l'indique, c'est-à-dire Kodesh. Et qu'est-ce qui rend une écriture Kodesh? C'est une écriture par rapport à laquelle on doit avoir une attitude de retenue. La retenue qu'on a par rapport à tous les Kitvei Kodesh, c'est par rapport au nom d'Hachem, au nom de Dieu, qui est écrit dans les Kitvei Kodesh. Et une fois que le nom d'Hachem est écrit quelque part, le nom d'Hachem, dans ses diverses manifestations, donc c'est pas seulement le nom d'Hachem qu'on écrit Yud-Ké, Vav-Ké, mais d'autres noms d'Hachem, on a une interdiction de les effacer. Et donc, ce qui est particulier à la Megillat Esther, c'est que dans la Megillat Esther, il n'y a aucune partie qui ne peut être effacée, étant donné que elle ne comporte pas, il n'y a pas dans tout le rouleau de la Megillat Esther le nom d'Hachem, ni de façon explicite, ni de façon métaphorique. Donc ça, c'est la particularité de la Megillat Esther. Une autre particularité de la Megillat Esther, c'est que la Megillat Esther, c'est un des Kitvei HaKodesh, donc ça fait partie de la Torah écrite, mais en même temps, on a une Maseret, on a un traité de Mishnah et de Gemara qui s'appelle Megillah. Et donc on voit une ambivalence par rapport à quand on dit la Megillah ou Megillah, ça peut être aussi bien le rouleau d'Esther écrit sur du parchemin et qui s'appelle Megillat Esther, donc de Torah écrite, ou bien alors Maseret Megillah, le traité de Megillah. Le traité de Megillah qui traite essentiellement, on va dire, d'abord de la lecture de la Megillah et de la modalité de la lecture de la Megillah, mais dans le sillage de la lecture de la Megillah, le traité Megillah parle de manière générale de, on va dire, encore de deux autres sujets, c'est des lois du Beit HaKnesset, donc de la maison où on se rassemble pour prier et écouter les différentes lectures de Torah et de Neviim, et les lois de la lecture de la Torah de manière générale. Ceux qui ont organisé le texte de Maseret Megillah, ils ont donc pris comme sujet la lecture de la Megillah, et avec ça, on nous a présenté les lois de la lecture de la Torah. Donc, comme si la lecture de la Megillah était une entrée en matière, une ouverture pour la lecture des Kitvei HaKodesh, de la Torah et des Neviim et de l'Aftara de manière générale. Alors, c'est un peu dans cet ordre d'idées que les textes que vous avez devant vous traite. Alors, commençons par le premier texte, tout en haut. Donc, c'est un texte qui est tiré de la Gemara Megillah, Daf Yud, Rabbi Shmuel bar Nachmani. Patachla pitra lehai parashta mehacha. Donc, Rabbi Shmuel bar Nachmani, c'est un Amora, spécialiste en Haggadah. Patachla Pitra, il a introduit l'étude de la Megillah par par ce préambule. Les Haï Parashta, de cette affaire. Mehacha, à partir d'ici. Alors, c'est un morceau qui est tiré de la Gemara Megillah d'Afioud, mais la Gemara Megillah à cet endroit elle propose une quantité, peut-être 13 ou peut-être plus, 13 manières où on voit des Amoraïm nous présenter le sujet de la Megillah, mais sans faire une citation d'un verset de la Megillah, mais en rattachant la problématique de la Megillah à un autre verset ou des prophètes ou des Ketuvim qui donnent comme une, un point de vue général, une introduction, une clé d'entrée au texte de la Megillah. Vous voyez le commentaire de Rashi en dessous du premier alinéa. Patachla pitra lehay parashta mehacha. Donc, il a introduit par un préambule à cette affaire à partir d'ici. Keshehaya rotse lidrosh. Lorsque Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il voulait examiner, enquêter, be'inyan igeret purim, à propos de la lettre de Purim, Hayamatril Lidrosh Mikrasé, il commençait par l'examen de ce verset-là. Alors voilà le verset. C'est un verset qu'on va lire demain, à Mincha, puisque c'est un verset qui est tiré de Yeshayahu. Et la Haftara qu'on lit les jours de jeûne, Amincha, le texte qu'on lit pendant les jours de jeûne Amincha, il est tiré justement de Yeshayahu et c'est un verset qu'on va entendre demain à la Haftara de Mincha qui lui sert d'introduction, de préambule, de clé pour rentrer dans le sujet de la Megillah. Alors voilà le verset. Tachat hana'atzutz yale Berosh. Vetachat hasirpad yale hadas. Tachat hana'atzutz, à la place des ronces. Na'atzutz, c'est quelque chose qui prend racine, qui s'enfonce de par lui-même. Ce qu'on appelle les ronces ou les mauvaises herbes. Yale Beroche s'élèvera, montera Beroche, un cyprès, un bel arbre, en hauteur et en largeur. Vetachat asirpad yale hadas. Et à la place du sirpad, donc sirpad rachi, là, dans une des occurrences de ce mot, il traduit ça par buisson, pour dire aussi une sorte, on va dire, d'épine, de mauvaise herbe. Yale hadas, montera le hadas. Hadas, donc ça fait partie des quatre espèces qu'on prend en main à Sukkot. Et la particularité du hadas, c'est d'avoir une bonne odeur. Donc, voilà comment Rabbi Shmuel Bar Nachmani a interprété ce verset de Yeshayahu. Tachatana atzutz, à la place des ronces, c'est qui les ronces? C'est qui la ronce? Tachat Haman Harasha. C'est à la place de Haman le Racha. Racha, ça veut dire un homme qui est rebelle, qui s'oppose au fait qu'il y ait une loi. C'est ça qu'on appelle Racha. Haman, il s'appelle Haman Aracha. Tachat Haman Aracha, chez Asa Atzmo Avodazara. Alors la ligne, elle n'est pas très bien imprimée, mais on devine un peu les mots. Donc à la place de Haman, qui s'est réalisé, qui s'est effectué lui-même comme Avodazara, comme culte idolâtre. Et comment on peut entendre que Naatsutz, donc les ronces, ce qui prend racine par soi-même, ça veut dire on n'a pas besoin de le semer, le voilà qu'il est en train de se développer et en train de d'envahir tout l'espace qui lui est offert. Comment on se permet d'interpréter ce Naatsutz comme étant en rapport avec Avodah Zara? C'est un autre pasouk de Yeshayahu où le Navi, il emploie justement cette expression pour parler des idolâtres, dirtiv ou bechol anahatsutsim ou bechol anahalolim. Voilà. Donc, à la place de la ronce, à la place de la ronce, c'est qui la ronce? C'est Haman Aracha. Ya'ale Beroche s'élèvera un cyprès. Zé Mordechai. Beroche, ça désigne Mordechai. Comment ça désigne Mordechai? Shenikra Roche, les Chol Besamim. Beroche, par Roche. C'est quoi Roche? Roche, en fait, c'est... Alors ça, c'est dans la paracha de cette semaine, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Donc peut-être c'était aussi une occurrence de ce genre, puisque voilà, il a un pasouk de l'Haftara du Ta'anit et un pasouk de la paracha de la semaine. Zé Mordechai shenikra Roche l'Echol HaBesamim. Mordechai, lui, il s'appelle Roche, le principe, la tête, les Chol HaBesamim pour tous les parfums. Et quel est le rapport entre Mordechai et le parfum? C'est justement le mot Roche, puisque dans la paracha, on va lire chez Neymar, Veata, Kar Lecha Besamim Roche, prends pour toi, donc Hachem dit à Moshe, prends pour toi des parfums roche, donc de première qualité. Besamim, roche. Et le premier nom de parfum qui est mentionné dans la Torah, c'est un parfum qui s'appelle mor et qu'on traduit par myrrhe, mor d'erreur. Donc, du mor, de la myrrhe, d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire d'erreur? D'erreur, d'ordinaire, ça, on le traduit par liberté, libre. Mais on ne voit pas ici quel est le rapport. Et là-dessus, la Gemara elle ramène, ou metargeminan, on a reçu dans la tradition orale de la traduction de la Torah en araméen, celle qui est dite au nom de Unglus, que mort d'erreur, on le traduit mort d'erré. Mort d'erreur, mort d'erré. Du mire d'erré. D'erré, ça veut dire souvent le dalet, il est à la place de la lettre zain en hébreu. Donc c'est mort zar. Zar, ça veut dire pur. Comme on dit d'un métal, qu'il est pur dans le sens qu'il ne contient pas des scories avec lui. C'est un métal pur, mort d'erreur. Donc de la myrrhe, mais qu'on a libéré, on va dire, de toutes les scories qui pourraient s'introduire dedans et donc qui restent maintenant... à l'état, on va dire, de mort, de myrrhe, mais pur, 100% de la myrrhe. Et mort d'erreur, dans le Targoum, on appelle ça mort d'erreur. Alors, c'est un jeu de mots, puisque mort d'erreur, c'est un prénom, tandis que mort d'erreur, c'est un nom et un adjectif. Mort, c'est de la myrrhe. Et déré, ça veut dire pur, mort déré. Mais avec ça, il arrive à faire se rejoindre Tachat Hanatsutz Yale Berosh. À la place de la ronce va s'élever Berosh, celui qui est nommé à la tête. Qui est nommé à la tête? Eh bien justement, c'est Ve'ata Karlecha Bezamim Rosh, mort d'erreur. Donc la mire pure, c'est elle que la Torah elle désigne en disant Bezamim Rosh. Or, comme la mire pure, en araméen ça se dit mort d'Echaï, alors on a là un indice pour faire résonner le nom de Mordechai avec Berosh. Même que Berosh, ici aussi, on fait une, on force un peu sur la langue, puisque le mot Berosh, le bet, il est de la racine. Bet, resh, shin, ça c'est la racine pour dire ainsi près. Tandis que Berosh, Karlecha Besamim Rosh, prend pour toi des parfums de qualité, roche, B, roche. Ici, on est en train de décomposer le mot B, roche, en par ou pour la tête. Donc tout ça, c'est une manière, on va dire, de d'alluder à Mordechai et à Haman, mais c'est pour l'idée ici qu'on veut mettre en valeur, qu'on a convoqué toutes ces finesses de lecture. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que il suffit pas de se débarrasser d'Aman, il faut encore mettre Mordechai à la place. Et le verset il continue. Tachat asirpad, tachat vashti aresha, à la place des ronces, des mauvaises herbes, des buissons, des plantes de peu de qualité. Donc, c'est Tachat Vashti, à la place de la reine Vashti, Harecha'a, qui elle-même aussi est traitée de Recha'a. On ne nous a pas exposé dans la Megillat Esther explicitement l'impiété de Vashti. À la limite, on peut même se poser la question comment on a des renseignements si précis sur Vashti en tant que Recha'a, alors que la Megillat Esther, c'est le seul texte où Vashti figure. La Megillat Esther ne donne pas beaucoup de détails sur Vashti. Et la première intervention de Vashti lors de la Megillah, elle n'est pas si déplacée que ça. Mais les sages, ils avaient en tradition orale des informations sur Vashti. Déjà que Vashti, elle est Bat Beno Shel Nebuchadnezzar Arasha. Elle est la fille du fils ou du petit-fils de Nebuchadnezzar Harasha. Alors, ça nous en fait un troisième Rasha. Donc, il y a Haman, Harasha, il y a Vashti, Harishara, et Vashti, elle tient ça de son patrimoine familial, puisque son grand-père ou son arrière-grand-père, Nebuchadnezzar, lui-même, c'était un grand Rasha. Pourquoi? D'où on sait, lui c'est explicite dans les versets. Lui, il est racha parce que Saraf Refidat Beit Hashem. Il a mis le feu au palais, à la maison de Hashem. Dirtiv Refidato Zahav. Donc, le mot Sir Pad, on le décompose en deux mots. C'est comme s'il y avait marqué Saraf Refidato Tachat ha Sirpad. Sirpad, on l'entend comme celui qui a brûlé le siège de la présence d'Hachem dans le monde. Refidato Zahav, c'est un verset du Cantique des Cantiques qui fait allusion au Aaron HaKodesh et plus précisément au couvercle du Aaron HaKodesh qui est surmonté des deux kérouvim, et le couvercle et les deux kérouvim, ils sont en or, et c'est à partir de cet objet Refidato Zahav que la voix d'Hachem, elle parvient au prophète durant le temps où le Beth Amikdash, il était construit et où le Aaron, il avait sa place là-bas. Donc, de nouveau, c'est un jeu de mots assez lointain. Sirpad, Tachata Sirpad, à la place de Saraf Refidato, à la place de celui qui a brûlé le siège de la présence divine sur terre, c'est-à-dire le Beth Amikdash et plus précisément le Aaron HaKodesh et la Caporette, donc Yahale Hadas s'élèvera Hadas, un myrte, donc c'est une plante qui elle est toujours verte et odoriférante, qui a une particularité aussi, c'est d'être touffue. Donc, Zou Esther Atzadeket Shenikret Hadassah. Ça, ça désigne Esther, qui elle est nommée Tzadeket. Donc, Esther qui a un comportement d'une femme juste et qui est dans la Megillah nommée Hadassah, Shenemar, Vei Omen et Hadassah. Comme la Megillah, elle nous dit à propos de Mordechai, donc le cousin de Esther, lui, Mordechai, le cousin de Esther, il avait pris Hadassah, il avait recueilli Hadassah chez lui, puisque Hadassah n'avait ni père ni mère, et quand ses parents sont morts, c'est Mordechai qui l'a recueilli chez lui comme sa fille. Yomen et Hadassah. Mais voilà maintenant le point pour lequel j'ai moi-même sélectionné ce texte. C'est là qu'il apparaît que Tachatana Atsuts Yale Berosh, Vetachata Sirpad Yale Hadas, donc c'est le Navi qui parle du moment de la Géoula. À la Géoula, voilà les événements auquel on devra faire face. On verra des ronces, à la place des ronces viendra s'élever un cyprès. À la place des mauvaises herbes viendra s'élever les myrtes. Eh bien, ça, Ve'aya, la chaîne, les chaînes. Ça, ça sera Ve'aya, donc c'est un signe qui annonce quelque chose qui est très joyeux. L'Hachem, ça sera pour Hachem, l'Hachem, une renommée, un nom. Hachem, quand la Géoula arrive de cette manière, où Tachatana Atsuts Yale Berosh, Tachata Sirpad Yale Hadas, là, il se joue quelque chose où Ve'aya, l'Hachem, l'Hachem, ce sera pour le nom de Hachem, l'Hachem, le nom de Hachem, l'Hachem, une renommée, une un nom, ça veut dire quelque chose qui impressionne. Zou Mikra Megillah, que de cet événement-là, il va arriver pour Hachem une renommée, un nom, c'est quoi? Zou Mikra Megillah, c'est la déclamation du rouleau. Le Hotolam Loïkaret, comme un signe éternel qui ne sera pas enlevé, retranché, et lui le met pourri. Donc, le verset il finit en disant Ve'aya l'Hachem, l'Hachem, l'Eotolam, l'Oïkaret. On dit que Ve'aya l'Hachem, l'Hachem, ça sera pour Akadosh Baruch Hu un nom, une réputation. C'est quoi? C'est Mikra Megillah, le fait de déclamer le rouleau d'Esther à Pourim. Alors, ça c'était l'intérêt pour moi de sélectionner ce texte-là, puisqu'il nous fait entendre que la déclamation de la Megillah, qui ne comporte aucun nom divin, qui ne comporte même pas une seule fois le nom d'Hachem, eh bien, elle-même, elle devient une renommée pour Hachem. La déclamation de la Megillah devient un nom, une réputation, une renommée, quelque chose qui impressionne. Donc, c'est pour Hachem un nom. Qu'est-ce qui est pour Hachem un nom? La déclamation de la Megillah, Mikra Megillah, le fait de lire la Megillah à Pourim. Alors voilà, c'est ça que je voudrais enquêter à mon tour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire que lire la Megillah, c'est s'occuper de donner à Hachem un nom. Ve'aya l'Hachem l'Hachem, une réputation. Et au passage, juste, on souligne que dans Rashi, on a entendu maintenant un autre mot dans ce sujet, puisque Rashi, il commente en disant « L'idrosh be'inyan igeret pourim ». Quand Rav Shmuel Bar Nachmani, il fait son introduction, Rashi nous dit « Lorsqu'il a en tête d'examiner le sujet de Igeret Pourim. » Alors, c'est quoi ce mot, Igeret Pourim? Il y a un mot bien connu qui s'appelle Megillat Esther. Et là, Rachid l'a changé, il l'appelle Igeret Pourim. En français, Igeret, la lettre de Pourim. Alors voilà, maintenant on va étudier véritablement le sujet. Ça, ce n'était que le préambule. Alors voilà le sujet. Le sujet, il commence dans la Mishnah, la première Mishnah du deuxième chapitre de Megillah, qui dit ceci. Alors, vous voyez où on en est? Talmud Bavli, Maseret Megillah, Daf Yud Zayin, Mishnah. Hayeta ketuva besam ou besikra ou bekomos ou bekankantom à la Neyar, vers la Diftera, l'Oyatsa. Si le rouleau de la Megillah est écrit avec Haïta Ketuva, si le rouleau de la Megillah était écrit Bessam, avec Sam, alors, Sam, ça veut dire un poison. La Gemara, elle dit Samma, et Rashi, il renvoie avec un autre mot en persan, zarnik, zarnir, et en français, hors piment. Alors, en faisant un peu de recherche, c'est une encre. C'est un élément dont on se sert pour faire de l'encre jaune. Donc, sam, c'est une sorte d'encre de couleur jaune, et sûrement c'est à base d'arsenic. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Ou besikra, ou avec une encre de couleur rouge, ou bekomos, ou avec de la gomme arabique, ou bekankantom. Alors, sam et sikra, c'est des couleurs jaune et rouge, komos et kankantom, ça c'est des éléments qu'on ajoute, qu'on peut ajouter dans l'encre, puisque ce sont des éléments qui servent à ce que l'encre elle s'accroche à la surface sur laquelle on la dépose. Donc il y a komos, c'est la gomme, et kankantum, Rashi traduit vitriol, donc c'est quelque chose à base de cuivre. Tout ça c'est donc des encres, mais qui ne sont pas noires. Sam, c'est de l'encre jaune, sikra, c'est de l'encre rouge, komos et kankantum, même qu'elles sont noires, ces deux encres, mais elles sont pas noires avec la couleur noire à laquelle on s'attend, mais qui tendent vers le gris. Et c'est pour ça qu'elles sont disqualifiées ici. Donc ça, c'est quatre sortes d'encres qu'on a disqualifiées pour l'écriture de la Megillah. Et maintenant, à la Neyar, vers la Diftera, maintenant on parle du support. Si la Megillah, elle a été écrite sur un support qui s'appelle Neyar, alors Neyar, on traduit en hébreu papier, mais c'est pas très loin. C'est pas très loin parce que Neyar, c'est l'origine du mot papier, c'est-à-dire du papyrus. Papyrus, c'est quand on prend une matière végétale et avec l'aide de toutes sortes de techniques et de colle, on fait de ce végétal un support sur lequel on peut écrire dessus. C'est ça qu'on appelle Neyar. Ou alors Diftera. Alors Diftera, c'est un mot grec qui vient du grec et qui désigne de la peau. Mais dans le Talmud, ce mot il est employé pour désigner une peau qui a été un peu travaillée, on dit en français tannée, mais justement non, puisqu'elle a été un peu travaillée, maliach vekamiach velo afit, qui a reçu un bain de sel, un bain avec de l'eau et de la farine, mais qui n'a pas reçu, à proprement parler, des tanins qui sont présents dans les noix de gale dont on se sert pour tanner la peau. Tanner, ça veut dire introduire une substance qui s'appelle tanin dans la peau pour la rendre imputrescible. Si une peau, elle a été travaillée mais elle n'a pas été tannée, on ne pourra pas s'en servir pour écrire la Megillah. Donc on a disqualifié quatre peaux et deux supports pour l'écriture de la Megillah. Et maintenant on en arrive à... Et donc qu'est-ce qu'il faut bien pour l'écriture de la Megillah? Acheté Ketuva Ashuri. Il faut qu'elle soit écrite dans l'alphabet Ashurit. Donc l'alphabet Ashurit, l'alphabet authentifié, c'est-à-dire l'écriture telle que on la connaît nous, les lettres carrées, comme on les appelle, à la Sefer, donc sur un support Sefer, sur un support, Rashi, il traduit Sefer Klaf, donc du parchemin, sur une peau tannée, ou Bidio, et avec de l'encre noire. Donc, la Mishnah, elle, exige que le rouleau de la Megillah dont on se sert pour lire la Megillah à Pourim, il doit être écrit avec de l'encre noire et sur une peau tannée, sans quoi on n'est pas yotzé, on n'est pas quitte de la lecture de la Megillah. Et ces trois éléments-là, donc Ashurit, Sefer et Dio, ce sont ce qui est demandé pour tous les Kitvei HaKodesh. Tous les Kitvei HaKodesh, ils n'ont leur rang, leur qualité de Kitvé HaKodesh que dans la mesure où ils sont écrits en Ashurite sur du plâtre et avec de l'encre noire. La Guémara, Daf Yutet, elle se pose la question à la Sefer Ubidjo, Menalam, d'où on sait affirmer une telle chose, d'où on sait dire que, effectivement, le rouleau de la Megillah nécessite les mêmes conditions d'écriture pour l'encre et pour le support que tous les autres qui devaient à Kodesh. D'où on sait une chose pareille. Ben, on pourrait dire, ben, si ça fait partie des Kitvé HaKodesh, c'est que elle nécessite ce qui est exigé pour tous les autres Kitvé HaKodesh. Eh bien, on voit que la Guémara, non, elle va faire un détour, et c'est justement ce détour qu'on va essayer d'analyser un peu plus tard, si on y arrive. Donc, à la Sefer Ubedio, Menalan, d'où est-ce qu'on sait que le rouleau de la Megillah, on doit l'écrire avec un parchemin, sur un parchemin et avec de l'encre noire? La Gemara, elle répond, Atia, Ketiva, Ketiva. Cette chose-là, elle nous est venue parce que on va dire, on va l'apprendre, on l'a apprise d'une Gezera Shabbat, d'un radical similaire, d'un mot qu'on retrouve aussi bien dans le texte de la Megillah que dans un autre texte, et c'est à partir de la Gezera Shabbat, Ketiva, Ketiva, qu'on va savoir que le rouleau de la Megillah nécessite les mêmes conditions d'écriture que le Sefer Torah ou que les autres qui devaient à Kodesh, c'est-à-dire le parchemin et l'encre noire. Voilà la Gezera Shabbat. Voilà le radical similaire, Ketiv Hara. Il est écrit ici dans la Megillah. Donc, Vatir Tov Esther Hamalka. Alors, vous l'avez dans la deuxième feuille, en haut. Vatir Tov Esther Amalka Batavichail, ou Mordechai Ayehudi, et Kol Tokef. Esther, la reine, la fille d'Avichail, et Mordechai, le juif, ont écrit, enfin, plus exactement, et elle a écrit Esther, la reine, la fille d'Avichail, avec Mordechai, le juif, et Kol Tokef, toute la force, toute l'importance, les Kayem, pour donner une tenue, un maintien, et Igeret Apurim Azot Hachénit. Donc on voit le verbe Vatir Tov Esther, Esther a écrit, même que, véritablement, cette chose-là, elle avait déjà été faite un peu plus préalablement par Mordechai. Alors vous l'avez ça dans la première feuille, là, tout en bas de la première feuille. Megillat Esther Perektet Pasuk Kaf. Vayirtov Mordechai et Advarim Aele. Vayishlar Sefarim El Kol Ayehudim. Donc, comment la Megillat Esther nous raconte son processus d'écriture. Donc, la Megillat Esther, elle se présente d'abord comme une histoire. On nous raconte, et ce fut au temps d'Achashverosh, il a fait un grand festin de 180 jours et de 7 jours, et après il a appelé Vashti, et elle n'est pas venue, et après ils ont cherché une autre reine, et c'est Esther qui est venue, et Aman qui veut exterminer tous les juifs, et Esther qui s'introduit chez le roi. Et grâce à ça, Aman il est pendu, et ensuite, au lieu des lettres qui promulguent l'extermination de tous les juifs le 13 Adar, Mordechai et Esther ont envoyé des autres lettres donnant la possibilité aux Juifs de se défendre. Et les Juifs se sont défendus le 13 Adar, et ensuite ils ont fait le 14 Adar un jour de fête, d'eux-mêmes. Et là-dessus, Mordechai a écrit à tous les Juifs de maintenir ce jour comme un jour de fête. Et par après, la Megillah nous dit, Esther a écrit la Megillah. Alors, c'est on va dire redondant, ou peut-être même en contradiction, puisqu'il faut savoir, est-ce que c'est Mordechai qui a écrit, Esther qui a écrit, de quoi il s'agit véritablement? Eh bien, la Gemara, elle entend, va Tirtov Esther Amalka, ça, c'est ce qui nous permet d'entendre, par Gezer HaShava, Ketiva Ketiva, que l'écriture d'Esther Amalka, c'est une écriture pour inscrire la Megillat Esther dans les Kitvei HaKodesh. Puisque il y a marqué Esther, la reine, a écrit, ou Ketiv Hatam, et il est écrit là-bas. Alors là, là-bas, ça veut dire dans le prophète Yirmiyahu. Vayomer lehem Baruch, Mipiv Yikra, Elai, et kol ha-devarim ha-ele, ve'ani kotev ha-sefer, Badiou. Donc, quelle est l'histoire là-bas? Yirmiyahu. Alors, Yirmiyahu, il fait partie des prophètes qui s'appellent les prophètes de Pour Anout. Yeshayahu, il fait partie des prophètes qui s'appellent les prophètes de Nechama. Il y a des prophètes qui font un peu de Nechama, un peu de Pour Anout. Yirmiyahu, lui, il est surtout dans la Pour Anout. Pour Anout, ça veut dire le châtiment. Yirmiyahu, toute sa carrière de prophète, elle était pour annoncer le châtiment, c'est-à-dire la venue de Nebuchadnezzar à Yerushalayim qui allait détruire Yerushalayim et le Betamidash. Mais au préalable, Yirmiyahu a essayé de convaincre les gens de sa génération de changer d'attitude pour éviter cette catastrophe. Et au départ, ça allait pas du tout bien pour lui, étant donné que quand il a commencé sa prophétie, le roi à l'époque, c'était donc Yehoyakim, il l'a jeté en prison. Il l'a enfermé dans une geôle pour ne pas qu'il puisse délivrer son message prophétique. Mais de sa geôle, Yirmiyahu, il a écrit une prophétie, et c'est, nous dit Rashi dans le chapitre 36 de Yirmiyahu, c'est le livre que nous avons gardé sous le nom de Echa. Echa, c'est une des cinq Megillotes, et Echa, on le lit comme une lamentation, comme si les choses écrites dans ce livre sont une certaine constatation d'une déchéance, d'une destruction. Mais en fait, au départ, ce livre, ce texte, il est une prophétie, puisque Yirmiyahu, de sa prison, il a dicté à Baruch ben Neria, qui était l'élève et l'apprenti prophète de Yirmiya a fait parvenir au peuple et au roi de Yerushalayim un texte qui est un texte prophétique, c'est-à-dire donc le texte des lamentations, alors que rien ne laisse ici deviner la destruction ni les lamentations qui vont s'en suivre. Mais ces lamentations, elles ont été présentées préalablement comme une prophétie. Voilà à quoi vous devez vous attendre si maintenant vous ne changez pas de comportement. Et donc, Yirmiyahu étant dans la geôle, il ne peut pas lui-même en tant que prophète annoncer cette parole de sa bouche de prophète. Alors pour ça, il a appelé son élève, Baruch, et Yirmeyahu, il lui a dicté la chose pour que Baruch l'écrive, de telle sorte que ce soit Baruch qui n'était pas enfermé dans la geôle, qui trouve le moment opportun pour présenter ce texte au peuple, au Beth Amikdash. Donc, une fois que Baruch ben Neria a lu ce texte au Beth Amikdash, il est allé aussi le lire devant les sages du Sanhédrin, les sarim du roi, et les sarim, ils interrogent Baruch ben Neria, mais dis-nous, qu'est-ce que ça signifie véritablement que tu écris Mipi Yirmeya, de la bouche de Yirmeya? Et là-dessus, il leur répond que c'est tel quel, à prendre au mot. Vayomer lehem Baruch. Baruch a répondu au sage qui l'interrogeait en disant Mipiv Yikra, de sa bouche, il déclame Elai, à mon intention. Et kol hadevarim ha'eleh, toutes ces paroles que voici écrit. Ve'anikotev ala sefer badeyo. Tandis que moi, Baruch, pour transporter cette névoie, puisque Baruch lui-même, c'est pas lui le prophète, c'est pas à lui que Hachem s'est adressé pour dire ces paroles en vue que lui-même les transmette au peuple. Baruch ben Neria, il n'est que ici le messager de cette parole de Yirmeyahu. Et comment Yirmeyahu il a transmis cette parole au peuple, alors que lui, il n'était pas en mesure de se présenter devant le peuple, puisqu'il était enfermé dans une geôle, dans la Matara, dans la... il était en garde à vue. Mais le texte que Yirmeyahu il fait écrire à Baruch ben Neria, il a été lu au Beth Amikdash en présence de tout le peuple, et ensuite ils sont allés le lire au Sanhédrin, et c'est le Sanhédrin qui pose la question à Baruch, mais comment tu peux nous préciser exactement comment ça s'est fait? Tu dis au nom de Yirmeyahu, mais peut-être que Yirmeyahu il t'a parlé à diverses occasions et toi tu as compris à partir de ça quelque chose et tu l'as rédigé, ou bien peut-être que tu l'as vu marqué quelque part et tu l'as recopié. Et Baruch il répond non, lui Yirmeyahu le prophète, Mipiv Yikra Elai, de sa bouche il crie vers moi, il me dicte. Donc c'est le même mode que on nous a transmis pour la prophétie de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu il a écrit le texte de la Torah? Eh bien Hachem il dit à Moshe la parole du texte et Moshe il l'écrit. Mipiv Yikra ve'anikotev basefer ubadio. Eh bien de même pour la Megillat Esther. On fait une Xerachama. Vatir Tov Esther Batavichaïl ou Mordechaïa Yehudi et Koltokev. Vatir Tov Esther. Comment Esther elle a écrit? Mais il ne s'agit pas ici de la de l'écriture de la Megillah en tant que telle, puisque cette écriture, on en a déjà parlé préalablement et on l'a dit au nom de Mordechaï. Que Mordechaï a écrit ces paroles-là et il les a envoyées à tous les juifs la première année. Et maintenant, on parle de nouveau de cette écriture. Et donc, la Gemara, elle interprète que cette écriture d'Esther n'est rien d'autre que la manière pour Esther d'inscrire le rouleau, la Megillah, comme un des qui devait à Kodesh. Donc, à partir de Ketiva, Ketiva, on a une Gezera Shava, on a la possibilité d'apprendre que la Megillat Esther, elle doit être écrite comme un Sefer Torah, c'est-à-dire avec de l'encre noire et sur le support qui s'appelle Sefer, donc une peau tannée. Et ça, on le sait, on va dire, à partir d'un mot qu'on voit apparaître aussi bien dans la Megillat Esther que dans la prophétie que Yirmiyahu a transmise par l'intermédiaire de Baruch ben Neriya. Donc voilà déjà un premier élément où le rouleau de la Megillat Esther est considéré donc comme un Sefer, comme un des 24 qui devait à Kodesh. Mais c'est pas tout, parce qu'on pourrait penser que bon, on a exigé que le rouleau d'Esther il soit écrit sur du parchemin avec de l'encre noire, mais peut-être que on va s'arrêter là. Peut-être que la modalité particulière de l'écriture avec de l'encre noire sur un parchemin, qu'on exige dans le Sefer Torah, on ne va pas l'exiger dans la Megillah. Eh bien non, puisque, alors ça c'est le prochain alinéa, donc on est maintenant au Talmud Bavli Maseret Megillah Daf Tet Zayin, Divrei Shalom Ve'emet, donc toujours dans ce même texte de la Megillat Esther, on disait que Esther et Mordechai ont écrit cette lettre, et cette lettre, elle s'appelle Divrei Shalom Ve'emet. Ce sont des paroles de Shalom, de paix et Emet et de vérité. Et la Gemara, elle apprend à partir de cette manière de parler de la Megillah d'elle-même, Divrei Shalom Ve'emet. Qu'est-ce que la Megillah elle entend par des propos de paix et de vérité, Amar Rabbi Tanhum. Donc, ce morceau de la Gemara Megillah, il est tiré justement de l'endroit dans la Maseret où on a passé en revue tous les versets de la Megillah un par un pour les examiner. Et donc, on est proche maintenant de la fin de la Megillah. Voilà ce que la Gemara, elle, examine à propos de ce verset. Amar Rabbi Tanhum, Vamrela Amar Rabbi Asi, Melamed, Shetzericha Sirtut, Ka'amita Shel Torah. Rabbi Tanhum, il y en a qui disent, c'est Rabbi Asi qui nous dit, Melamed, le fait que la Megillah, elle dit d'elle-même qu'elle est une parole de paix et de vérité, Emet, Qu'est-ce que ça signifie, cet adjectif de vérité se rapportant aux paroles de la Megillah? Melamed, cela nous apprend, Shetzricha Sirtut, qu'elle a besoin, hein, Sirtut. Tu vois, Sirtut. Qu'est-ce que c'est Sirtut? Sirtut, c'est le lignage. Donc, on écrit avec de l'encre noire, Dieu, sur du parchemin, Sefer, tanné. Mais, avant de commencer à écrire, il faut faire des lignes. On n'écrit pas sans que ne soient visibles les lignes à partir desquelles on écrit. Donc, comment on procède pour faire le sirtut, le lignage, eh bien avant d'écrire, on prend un tarot ou une pointe avec laquelle on fait une incise dans le parchemin. Donc ce n'est pas une ligne faite avec une couleur ni avec de l'encre. C'est une ligne qui est faite par une incise, par une marque, une trace qu'on fait dans la peau avec un instrument pointu au bout qui permet donc de faire une ligne, et c'est un sillon, et donc c'est sur cette ligne qu'on pose les lettres. Et toutes les lettres arrivent sur cette ligne. Donc, on exige pour la Megillah, aussi bien dans la manière, le corps même de la Megillah qui soit le même, identique que les Kitvei Kodesh, c'est-à-dire la potanée et l'encre noire, mais aussi dans les modalités, on va dire, raffinées, exigées pour l'écriture du Sefer Torah, et c'est ça qu'on appelle surtout le lignage. Donc on a deux références, deux endroits où la Megillah elle-même, elle nous sert de référence pour apprendre qu'on doit donner à la Megillah le même rang que l'écriture des autres qui devaient à Kodesh. Très bien. Tout ça, c'est pour ensuite nuancer le propos. Donc, maintenant, on va arriver à ce qui nous concerne véritablement pour le sujet d'aujourd'hui, c'est la Megillah comme une lettre. Donc, pour l'instant, à part une petite mention de Yigeret Purim dans Rashi, on ne voit pas du tout pourquoi la Megillat Esther, elle pourrait s'appeler Yigeret. Alors maintenant, on va lire le morceau en rapport avec ça. Talmud Babli, Maseret Megillah, Daf Yutet. Ve'amar Rabbi Chelbo, Amar Rav Hama Bar Guria, Amar Rav. Rabbi Chelbo a dit, au nom de Rav Hama, le fils de Guria, qui lui-même a dit au nom de Rav, Megillah, Nikret Sefer. La Megillah, elle se nomme elle-même Sefer. Nikret Sefer, vous voyez en dessous il y a le Rashi, Nikret Sefer, Rashi nous dit, où est-ce que la Megillah est appelée Sefer, Nikret Sefer, Venirtav, bas Sefer. Alors cette référence, vous l'avez dans la deuxième feuille, c'est le dernier mot du premier paragraphe de la deuxième feuille. Où Mahamar Esther Kiyam Divrei Apurim Maele, Venirtav, bas Sefer. C'est le propos d'Esther qui a donné une tenue aux paroles de Purim que voilà, et qui les a inscrits bas Sefer dans le Sefer. Qu'est-ce que ça veut dire bas Sefer? Eh bien, vous avez aussi le commentaire de Rashi, Pasuk Lamed Bet, Mahamar Esther Kiyam, Esther Biksha Me'et Rachmeador les Kov A, Esther a demandé des sages de la génération de la fixer de l'Irtov Sefer Ze Imshehar HaKetuvim et d'écrire ce livre-là avec les autres écritures de la sainteté Vezeu Venirtav Basefer, et c'est ça que désigne le mot écrit Basefer dans le livre. Le livre, ça veut dire la Bible hébraïque. Donc la Megillah, elle se nomme Sefer. Mais, nous dit Rav, Megillah Nikret Sefer, Venikret Igeret. Mais elle est appelée aussi Igeret. Une lettre. La Megillah, elle se nomme elle-même lettre. Vous l'avez... aussi c'est dans la deuxième feuille, la première ligne, Alken Karou Layami Maele Puri Malchem Apur, Alken Alkol Divre Haigeret Hazot. Voilà pourquoi on a nommé ces jours-là les sorts, au nom du sort. Voilà pourquoi se rapporte, voilà à quoi se rapportent toutes les paroles de cette lettre-là. Alors là, c'est carrément étrange que la Megillah, elle se nomme elle-même ici une lettre. Puisque tout au long de la Megillah, il y a beaucoup d'écritures qui sont écrites et chaque fois, le terme qui est employé pour nommer ces écritures, c'est justement le mot « sefer ». Vaishlach Sefarim. On envoie des Sfarim, des pièces de chancellerie. C'est pas une lettre comme on envoie d'un ami à l'autre, d'une personne à une autre, pour faire savoir des choses qu'on n'est pas en mesure de transmettre par une parole directement, soit parce que la personne elle n'est pas devant nous, alors on lui envoie une lettre. Soit parce que on trouve comme moyen de communication l'écriture, ça peut être un moyen de communication comme un autre, mais ce qu'on dit quand on dit d'une écriture qu'elle est directe, c'est a priori à l'opposé de ce qu'on dit quand on dit qu'une écriture est appelée un sefer. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est une Igeret ? C'est une communication qu'on a choisi de transmettre par écrit. Et donc, que la Megillah elle-même, elle se nomme Igeret, ça interpelle. Pourquoi la Megillah, elle a choisi le nom de Igeret pour se nommer elle-même ? Et ça intervient à la fin, puisqu'on nous dit, voilà pourquoi on a appelé ces jours Pourim. Voilà à quoi renvoient toutes les paroles de Igeret Hazot, de cette lettre-là. Et le mot, il revient encore. Vatirtov Esther Amalka Batavichail, Umordechai Yehudi et Kol Tokef, Le Kayem et Igeret Hapurim. Il faut donner un kiyum, un maintien, une tenue à Igeret Hapurim, à la lettre de Pourim. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors la Gemara, elle, enquête, et voilà ce à quoi elle arrive. Donc, Amar Rabbi Chelbo, Amar Rabbi Chama Bar Guria, Amar Rav. Rabbi Chelbo a dit au nom de Rav, Chama Bar Guria, qui a dit au nom de Rav. Megillah, Nikret Sefer, Ve Nikret Igeret. La Megillah, elle se nomme elle-même Sefer, donc un livre, pour dire un des livres des Kitvei HaKodesh, Venikret Igeret, mais elle se nomme aussi une lettre. Nikret Sefer, elle est appelée livre, Sheim Tefara Bechute Pishtan Pesula. Elle est appelée livre, et cela c'est pour nous apprendre que si elle a été cousue avec des fils de lin, elle est invalide. Alors, le rouleau de la Megillah, c'est à peu près 10 pages, 10 colonnes, comme on a l'habitude de le voir dans le Sefer Torah, à peu près. 400 lignes, comme ça. On nous dit, la Megillah, elle s'appelle Sefer, parce que ces 10 pages, on ne va pas trouver une peau pour écrire dedans tout le contenu de la Megillah. Donc comment on fait quand on écrit un Sefer Torah ou n'importe quel livre des Kitvei HaKodesh? On écrit sur des feuillets, et ensuite les feuillets, on les attache les uns aux autres par une couture latérale. Et c'est comme ça qu'on forme le rouleau de la Megillah en cousant un feuillet à l'autre. Eh bien, pour faire cette unité du rouleau, on exige que on fasse la couture du livre avec du guide. Alors le guide, c'est du tendon. Tendon d'origine animale, donc les tendons d'un veau ou d'un bélier qu'on fait sécher et qu'on travaille de telle sorte qu'il soit solide, et c'est avec ça qu'on va coudre les peaux du rouleau. Un Sefer Torah, si on le coud avec du lin, avec une matière végétale, c'est nul. Ça invalide le Sefer Torah en tant que Kitvé HaKodesh. Un Sefer Torah qui aurait été écrit entièrement, comme il se doit, avec de l'encre noire et sur du parchemin, mais si les feuillets ont été reliés les uns aux autres par des fils de lin, cousus par des fils de lin, c'est invalide, c'est pas bon. Eh bien, pour la Megillah, ça sera la même règle. Si on a cousu la Megillah avec des fils de lin, c'est nul. Ça invalide la Megillah comme objet à partir duquel on pourra faire la déclamation du rouleau d'Esther. Par contre, Nikret Igeret, mais elle est aussi appelée une lettre. Alors, où on est? Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas. On est plus ou moins à cette hauteur dans le papier. Donc, là où ça commence par Talmud Bavli, Maseret Megillah, Daf Yud Tet. Et maintenant, on est à la deuxième ligne. Nikret Igeret, Sheim Hitilba, Floshachute Gidin, Keshera. Elle s'appelle une lettre, et ça nous fait dire que malgré le fait qu'on a exigé qu'on utilise des tendons d'origine animale pour coudre les feuillets de la Megillah entre eux, si on a utilisé seulement trois fils de guide, donc de tendon, ça sera valable, ça sera convenable. D'ordinaire, quand on veut coudre, par exemple, un Sefer Torah, on coud tout au long, on commence à l'extrémité, on fait passer le fil par devant et par derrière, et on coud tout au long du feuillet. Pour la Megillah, on peut se contenter de faire simplement trois points de couture. Étant donné que, c'est vrai, elle s'appelle Sefer, mais comme elle s'appelle aussi Igeret, alors on sera moins exigeant pour relier les morceaux de la Megillah les uns aux autres que pour les livres d'ordinaire. Rav Nachman, il nous précise, Amar Rav Nachman, Uvilvad Sheyehu Meshulashim, Rav Nachman de préciser, à condition que ces trois points de couture, ils soient divisés dans la hauteur de la feuille. Alors, maintenant, le problème, on peut le poser. Voilà notre problème. La Megillah, elle s'appelle Sefer. On a vu, Venirtav, bas Sefer. Alors maintenant, ce qu'on a lu au début, la Gezera Shava, Ktiva, à partir de Yirmeyahu, ou bien on a besoin Divrei Shalom Vehemet pour nous apprendre que la Megillah aussi, elle a besoin d'un lignage, comme Amitash El Torah, comme la parole de la Torah qui est Véras. Mais on n'a plus besoin de référence pour apprendre que la Megillah, elle nécessite de l'encre noire et un parchemin, et qu'elle nécessite un lignage autre que Bas-Sefer. Étant donné que la Megillah, elle se nomme elle-même Bas-Sefer, et qu'à partir de Bas-Sefer, la Guémara, elle a appris de là qu'on doit coudre la Megillah avec des tendons, et non pas avec du lin. Donc on donne à la Megillah toutes les règles du Sefer. Si c'est comme ça, pourquoi on ne s'est pas contenté de ce verset pour, à partir de ce verset, donner toutes les règles de l'écriture de la Megillah? Puisque la Megillah, elle s'appelle Sefer, eh bien, comme le Sefer, elle doit être cousu avec du tendon et pas avec du lin, mais aussi, comme le Sefer, elle doit avoir un lignage, comme le Sefer, elle doit avoir un support de peau tannée, et elle doit être écrite avec de l'encre noire. Comment ça se fait que la Gemara, elle est allée chercher une référence pour nous apprendre que la Megillah, elle doit être écrite sur du parchemin et avec de l'encre noire? Ça c'est la Xéra Shabbat de Ketiva Ketiva. Que la Megillah, elle doit être écrite avec un lignage, ça on l'a appris de Divrei Shalom Vehemet. Mais on n'a pas besoin de ces références. On n'a pas besoin de ces références étant donné que la Megillah, elle s'appelle Sefer. Si elle s'appelle Sefer, eh ben on doit lui donner tous les dinim du Sefer, étant donné que même quand on dit qu'elle s'appelle Igeret, c'est pas pour lui donner autre chose que une, on va dire, un allègement dans la manière dont on doit la coudre. On n'est pas obligé de la coudre de haut en bas, on peut la coudre simplement par trois points. Alors, le fait que la Megillah s'appelle Sefer devrait suffire à la Guémara pour établir à partir de là qu'on donne à la Megillah toutes les règles qu'on applique à un Sefer, c'est-à-dire aussi bien le support, donc en parchemin avec de l'encre noire, mais aussi le lignage, et pour finir aussi la couture avec les tendons. Voilà le problème que cette Guémara pose. Une fois que la Guémara, elle nous dit que la Megillah, elle s'appelle Sefer, ça devient pour nous incompréhensible parce que superfétatoire, les deux références qu'on a convoquées au début pour nous dire « La Megillah doit être écrite sur un parchemin avec de l'encre noire. » Ça, on le sait de la Xéra Shabbat Ktiva Ktiva. « La Megillah doit être écrite avec un lignage. » On le sait de Divrei Shalom Vehemet. Mais pourquoi on a besoin d'une... on avait besoin de faire appel à ces versets étant donné que on a la chose explicitement, puisqu'on nous dit la Megillah, elle s'appelle Sefer, elle s'appelle Livre. Si elle s'appelle Livre, eh ben appliquons à la Megillah toutes les règles du Livre, aussi bien le support, l'encre, le lignage et la couture. On voit que la Guémara, elle ne fait pas usage du fait que la Megillah se nomme elle-même Sefer pour appliquer à la Megillah tous les dînes, toutes les règles du Sefer. Est-ce que la question, elle est claire ?